Bonjour. Donc on m'a invité pour parler du collectif au niveau des races locales des Pyrénées en matière de sélection. Donc la discussion, la question qu'il y a eu là sur les augmentations de cotisations et autres, c'est bien dans le sujet. Puis ce qui est rigolo, c'est que l'année dernière, à la même époque, j'avais été invité par la coopérative Ovitest pour leur 50e anniversaire, pour parler d'un sujet à peu près identique. Donc je pense que ce n'est pas un hasard, et ça veut bien dire que le collectif, il est questionné aujourd'hui, pour plein de raisons. Hein. Ouais. Donc, moi je vais simplement répondre sur nous donnant des informations techniques, en fait, c'est la seule chose que je sais à peu près faire, mais aussi en revenant sur certains aspects historiques, parce que l'histoire, c'est toujours... On vit de jour au jour le jour, sur la dernière année, on regarde ce qui s'est passé, mais des fois c'est intéressant de voir ce qui s'est passé depuis un peu plus longtemps. Donc la première chose, alors le sujet c'est le collectif dans les races locales. Donc la première chose c'est que les races locales c'est pas du tout une évidence. Disons que, voilà, on part dans les années 50-60 au niveau de toutes les races françaises, à part la Corse, et on va étendre aussi aux races espagnoles, puisque vous êtes en contact avec les Espagnols. On part sur des races qui ne sont pas du tout laitières, enfin pas du tout, c'est un peu laitières, mais qui produisent 85 litres de lait par lactation. Et donc très tôt, il y a eu des volontés d'infuser du sang exogène avec des animaux plus laitiers, parce que malgré tout... Je ne parle pas du tout de productivisme, là, hein, mais malgré tout, c'est quand même intéressant de faire un peu de lait. Donc, à Lacombe, en premier, ils ont essayé d'infuser du sang sarde, du sang frison, donc dans les années 70. Les races espagnoles, ben, vous savez à quel point elles subissent les assauts des races Lacombe et Assaf. Et puis, à Manèche et Vasco Bernès, vous n'avez pas été en dehors du coup, puisque... vous connaissez l'épisode de la frise dans les années 80, puisqu'il y a eu des tentatives d'infusion de sang frison. Bon, finalement, ça a rien donné parce que les béliers frisons, ils mouraient quoi, dans les conditions d'ici. Donc, interaction génotype milieu caractéristique. Et puis après, il y a eu l'arrivée de la Lacombe dans les années 2000, bon, peut-être aussi pour des raisons sanitaires. Et bon, il se trouve que voilà, la cône s'est stabilisée. Alors, moi, j'ai mis un étiage raisonnable, mais raisonnable entre guillemets, on peut considérer que c'est beaucoup ou pas, mais ça reste à 50 000 dans le département. Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui existe. Alors après, bon, en réponse, il y a eu la protection des AOP, qui a beaucoup joué, en France, pas en Espagne, mais en France. Et puis après, il y a eu le fait qu'il y a eu une stratégie d'amélioration génétique basée sur la sélection des races locales, ben, qui a porté ses fruits. Alors, si elle n'avait pas porté ses fruits, on ne sait pas qu'est-ce qui se serait passé. Hein, mais en tout cas, ça a porté ses fruits. Et donc, aujourd'hui, la question des races exogènes, elle ne se pose plus. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle ne se pose plus aujourd'hui, plus tellement. Donc ça, c'est sur les races locales. Donc, pour faire un peu d'histoire... en fait, l'aventure de la génétique collective chez vous a commencé en 75, donc ça a été rappelé tout à l'heure. Voilà. Donc ça veut dire que dans 2 ans, ce sera le 50e anniversaire. Ils ont peut-être quelque chose à faire. Sachant qu'à l'époque, je pense que le côté coopératif, c'était la SIOP, hein, c'était pas le centre ouvert, c'était la SIOP. Et donc voilà, alors les férus d'archéologie génétique peut-être reconnaîtront l'écriture de Francis Barillet. Bon, c'est des documents qu'on garde précieusement à l'INRA. Voilà, donc là, les premières séries de testage, c'était 75 et 76. Et vous noterez à droite que la race où il y a le plus de béliers mis en testage à l'époque, c'est la manège tête noire, de là la tête rousse. Première chose. Et la deuxième chose, au passage, même si ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est que finalement, quand on lit à l'époque, puis on voit qu'est-ce qui s'est passé après, bon, on se rend compte que c'est le démarrage de l'IA qui a permis de démarrer les schémas réellement. Puis je me disais, finalement, en Corse, ça a été la même chose dans les années 90, en 92 ou 13, c'est l'IA qui a fait que la Corse a démarré. Et quand on revient, quand on réfléchit à la com aussi un peu plus tard, enfin un peu plus avant, ben en 70-72, c'est l'IA qui a permis de démarrer le schéma. c'est factuel, c'est pas, c'est comme ça. Donc 75 le début, et puis tout ça, c'est si je dis ça, c'est pas pour, c'est pour montrer la construction collective qu'il y a eu quoi, au fur et à mesure, hein, 75. Puis après 83, ben, il y a eu la création du Centre Aubin, donc avec la SIOP entre autres qui est remontée à 75, mais après d'autres organismes. Et voilà, c'est vraiment aussi ça, c'est le début d'une construction collective avec tous les aspects, l'OS, l'ARD, qui continue aujourd'hui, on ne sait plus sous la forme de la Cicatrium, peu importe, et tous les organismes. Donc déjà, à l'époque, les éleveurs ont eu l'envie de faire cette construction collective, et pour des races locales qui restent bien communes pour vous, et que vous défendez avec raison, bec et ongles. Donc 83, alors au passage c'est le 40e anniversaire, hein. J'ai pas fait gaffe à ça. Voilà, donc ouais, comme quoi des fois ça faut revenir en arrière, ça mérite des fois de le fêter aussi. Dans deux ans. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, donc construction des outils collectifs. Alors les outils collectifs, sans aller dans le détail, c'est le noyau de sélection avec le CLO. Puis c'est aussi les outils centre d'élevage et centre d'IA. Donc ça a vraiment été créé quoi, dans les années 80. Sachant qu'aujourd'hui, ben, alors le but de mon exposé, c'est quand même de montrer que toute cette construction collective, elle a porté ses fruits et que ça marche. Et que ce serait dommage que ça s'arrête. Enfin, ça, c'est... On verra en conclusion, mais au moins, c'est le but de tout ce dont je vais parler. Et aujourd'hui, on a 37% des 450 000 brebis de race locale qui sont suivies, soit en CLO, soit en CLS, ce qui est bien, ce qui est, voilà, ça veut dire que c'est bien une réussite. Alors bon, selon les races, c'est pas forcément la même chose. Voilà, bon, c'est sûr que en reprenant les vieux documents, à l'époque, en 75, il y avait un vieux pâtre de 75, il y avait 220 000 manèches têtes noires et 120 000 manèches têtes rousses à l'époque. Voilà, donc ça a changé, mais en tout cas, le noyau de sélection avec le CLO, il est bien aujourd'hui, il est bien calibré. Et donc, par rapport à la question du début, on fait avec ce qu'on a, quoi, les moyens financiers, mais ce serait vraiment dommage de casser cet outil. Donc cet outil, voilà, c'est le Centre Aubin. Donc effectivement, aujourd'hui, vous y êtes tous les jours. Moi, j'y suis de temps en temps. On a l'impression que c'est normal, mais ça n'a pas été normal, parce qu'à l'époque, il a fallu le construire. Alors, il y a un élément quand même qui est très important, sur lequel je vais insister. C'est que, bon, aujourd'hui, vous faites part de certaines difficultés, le déficit au Centre Aubin, au niveau des éleveurs, c'est pas forcément facile. Et des fois, il y a une question qui veut dire, mais est-ce qu'on pourrait pas faire 5 contrôles au lieu de 6, après 4 au lieu de 5, etc., etc. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis le début, les gens qui ont travaillé, bon, c'est pas moi, c'est Adam, hein, ont vraiment essayé d'optimiser, d'un point de vue technico-économique, les outils de sélection. C'est-à-dire à les alléger au possible, parce qu'en Auvergne, c'est forcément, ça coûte cher. Voilà. Ne serait-ce que faire des échantillons, ça, c'est le même prix pour les vaches et les brebis, on en fait beaucoup plus en brebis, donc ça coûte forcément plus cher. Donc ils ont essayé d'optimiser de manière à ce que, d'un point de vue génétique, ça marche, mais en étant vraiment au minimum. Par exemple, le contrôle de performance allégé, c'est un exemple, hein, qui est... Bon, le contrôle AC, c'est une seule traite quotidienne contrôlée sur les deux. Il y a encore beaucoup d'élevage de chèvres et pas mal d'élevage de vaches où il faut les deux traites soir et matin. Bon, en brebis, ça fait des lustres que ça n'existe plus. Le contrôle qualitatif partiel, c'est un truc qui existe qu'en brebis. On ne fait que 3 échantillons sur les six contrôles. On fait que sur les premières lactations, s'il y avait les deuxièmes, ce serait mieux, mais voilà, c'est plus cher. Donc déjà, les premières, c'est bien. Et donc, ça veut dire que par rapport à si on faisait des échantillons, tous les contrôles sur toutes les brebis du troupeau, soir et matin, ben on économise 90% des échantillons. Donc aujourd'hui, vous ne faites que 10% des échantillons que ce qui est fait par certains élevages de chèvres ou de vaches. Donc on voit le côté... Et ça marche d'un point de vue technique. Mais, j'insiste bien, hein, on ne peut pas aller en deçà, quoi. C'est-à-dire, après, on peut toujours passer à 5 contrôles, on ne peut rien faire. Hein, mais là, vraiment, on va perdre de la qualité. Donc on est vraiment dans un étiage, on ne peut pas aller au-dessous. Et puis, la construction du centre, là, c'est ce que j'ai rappelé avant, c'est un service global, c'est-à-dire dans le centre, il y a l'IA, il y a le contrôle des pieds, il y a la R&D, bon, il y a l'OS, et tout ça fait que il y a une sorte d'équilibre. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes organismes, l'OS, ce n'est pas le centre ouvert, mais il y a une sorte, d'un point de vue organique, c'est quand même très lié, c'est sur le même lieu, c'est un peu les mêmes personnes qui travaillent, et c'est ce qu'on retrouve en Corse, c'est ce qu'on retrouve à Confédération, dans l'Aveyron, entre l'IA et le contrôle laitier, c'est ce qu'on retrouve entre Vitesse et Biotech. Bon, ça, c'est une caractéristique qui n'existe pas en vache, donc c'était peut-être nécessaire, mais c'est bien. Donc, les outils sont créés, et ça, voilà, si on reprend l'histoire en 83, bon, il y a de l'IA, il y a des séries de testages. Mais en fait, ça ne va pas de soi, ce schéma collectif. Et ce n'est pas parce qu'il y a les outils que ça donne des résultats forcément de qualité, que c'est forcément bien fait. Donc, Didier, ça doit te rappeler des choses, toi. En fait, moi, quand je suis arrivé en 89, vous sortiez juste d'une opération vérité sur le schéma de sélection. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler, il y a prescription, hein, mais à l'époque, c'était assez, assez secret et c'était sensible. Donc voilà, la base c'était de se dire, de voir que il n'y avait pas vraiment des résultats, quoi, hein, depuis 75, depuis 83, on ne voyait pas grand chose. Et donc l'opération vérité, ça a consisté à vraiment tout analyser, quoi, le schéma, mais vraiment dans le détail, pour voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Et en fait, les grandes conclusions, c'était que c'était le côté collectif qui pêchait, quoi. C'est-à-dire, il y avait des choses qui n'étaient pas respectées par certains éleveurs ou parfois par le centre, enfin voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc à partir de là, il y a eu une décision, c'est de dire non, on ne peut pas continuer à faire comme ça, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose un peu de contractuel. Et je pense que c'est là que les premiers contrats de sélection ont été réalisés, quoi, et signés. Alors ça veut dire, quand on fait un contrat de sélection, pour le sélectionneur, on s'engage à faire le contrôle de perf officiel, à avoir un taux d'IA minimum, peu importe qu'est-ce qu'il est, mais en tout cas respecter ce taux d'IA minimum, et puis aussi à que l'effort de testage et puis aujourd'hui d'IA, de population de référence, soit partagé de manière équivalente par tous, que les éleveurs s'engagent à garder des fils de testage, il y avait le testage, et des fils de jeunes béliers génomiques, maintenant qu'il y a la génomique. Donc c'est un peu tout ça, quoi, le contrat de sélection. Bon, évidemment, le centre a le droit de préemption, donc je pense qu'à l'époque, c'était pas toujours aujourd'hui. Voilà, le centre qui voit un bon accouplement raisonné va chercher les béliers, et l'éleveur n'a rien à dire. Ça fait partie des contrats de sélection. Et puis, gestion raisonnée collective des béliers de monte naturelle, ça c'est un peu la déclinaison actuelle avec les béliers génomiques, qui restent chez les éleveurs, mais avec un peu un droit de regard et une gestion par le centre sur le devenir en diffusion de ces béliers. Et donc, il y a eu, bon, vous n'y voyez rien ici, mais voilà, il y a eu des contrats de sélection qui ont été signés, donc ça date de 88, si je vois bien. Voilà. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à mettre à jour, peut-être d'ailleurs, il y a eu des mises à jour entre-temps, ça, je ne sais pas, les contrats de sélection. Bon, c'est vraiment important, les contrats de sélection. Autre chose qui est importante, donc, vous parliez des assemblées de sections, là, tout à l'heure, c'est la dynamique de groupe, c'est-à-dire que les éleveurs participent. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu spécial, peut-être. On pourrait espérer qu'il y ait plus d'éleveurs, mais il y a des assemblées de sections, et c'est important d'y participer pour dire les choses, s'il y a des choses qui ne vont pas. Si je parle comme un curé, excusez-moi, c'est parce que... Mais c'est mon travail d'essayer de dire qu'est-ce qu'il faut faire, même si parfois, c'est pas facile. Et voilà, donc les assemblées de section, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les qualifications aussi par les éleveurs, je pense que ça se fait toujours, les éleveurs qui viennent au centre qualifier les béliers, un peu comme sur l'image là. Donc voilà la dynamique de groupe, et ça dans toutes les coopératives, les entreprises. Enfin, j'ai parlé un peu, pas avec les mêmes images, évidemment, dans Ovitest, et c'est caractéristique. Quoi. Il y a toujours les éleveurs qui participent, qui qualifient, qui. Alors, les objectifs de sélection, donc ça aussi, c'est un aspect important du collectif, parce que c'est vous qui choisissez, c'est les éleveurs qui choisissent les objectifs de sélection. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais après, ça se décide dans une instance qui est l'OS, c'est la majorité, c'est comme ça. Et donc, ces objectifs de sélection, ben, d'abord, ils ont, ce n'était pas le cas avant, mais maintenant, ils sont adaptés à chacune des trois races locales. Ils sont communs à tous les éleveurs de la race, et puis ils sont optimisés dans le temps. L'optimisation dans le temps, ça veut dire que, au début, on s'est concentré sur le lait, parce que je vous ai rappelé que les races n'étaient pas laitières, donc il fallait augmenter le lait. Puis après, c'est passé à la richesse, puis à la qualité du lait, les cellules, et puis aujourd'hui à la mamelle. Puis il y a eu l'épisode de la tremblante qui a nécessité de faire un peu, pas un arrêt sur image, mais de mettre l'accent là-dessus. Et puis aujourd'hui, il y a le parasitisme. Ce qui fait que ces objectifs, ils sont quand même équilibrés. Donc, les esprits chagrins qui parlent de productivisme, non, pas du tout. Factuellement, aujourd'hui, l'objectif de sélection, donc vous avez à droite la part du fromage, là, la part du lait, en haut, c'est tête rousse et basco-bernaise, en bas, c'est tête noire. Et donc, en haut, le lait, c'est grosso modo, c'est un tiers. Ça veut dire que deux tiers, c'est le reste, les taux, la mamelle, les cellules. Donc c'est équilibré. Et puis c'est commun à tous les éleveurs de la race, ça c'est un côté collectif, évidemment qui n'existe pas en vache, alors ça existe un peu, mais sauf qu'en vache, les éleveurs, ils disent, tiens, moi je veux tel taureau avec telle qualité, etc. Vous, on peut pas, vous ne pouvez pas dire ça. Donc tous les éleveurs subissent le même objectif de sélection. Ce qui est certainement plus efficace, parce qu'il n'y a pas de perte de charge. Tout le monde travaille dans le même sens. Alors après, vraiment très important de garder le CLO, et le plus possible, le plus d'élevage. On est à 20-25%, on ne peut pas aller plus parce que ça coûte cher, mais il faut garder ça. Et surtout le garder sur des élevages qui soient le plus représentatifs possible de la réalité du terrain. Parce que ça, c'est une grosse vertu de la sélection en ferme. Ce sont des caractères femelles, sélectionnés sur des brebis, mesurés en ferme, donc. Bon, aujourd'hui, il y a 330 ou 340 sélectionnaires qui, quand même, sont bien répartis dans les berceaux de la race et qui représentent certainement tous les milieux et tous les systèmes. Alors après, dans le détail, peut-être qu'il y a moins de transhumants que dans la réalité, je ne sais pas. On peut toujours trouver, mais grosso modo, tous les systèmes sont représentés. Et ça, c'est intéressant parce que quand il y a un bélier qui est testé sur une quarantaine de filles réparties dans plusieurs élevages représentatifs, 5, 10, 15 élevages, eh bien ce bélier a un index robuste parce que s'il sort améliorateur, ça veut dire qu'il aura résisté aux défis de tous les systèmes d'élevage. Donc les meilleurs béliers, a priori, ce sont les meilleurs dans tous les systèmes. Ça, on l'a montré. Alors, évidemment, dans le détail, il y a des choses que je dis qui ne sont pas vraies dans le détail. En moyenne, la génétique, c'est toujours des moyennes, en moyenne, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de sélectionneurs, vraiment. Et c'est ça l'intérêt de l'IA. Là, typiquement, l'intérêt de l'IA, c'est un bélier, on le teste dans 15 élevages différents ou 10 élevages différents, et celui qui sort bon, on sait qu'il est bon partout. Donc la sélection en ferme, c'est l'assurance qualité de la génétique, car elle se confronte à la diversité des fermes et des milieux, et donc elle atténue les interactions génotype-milieu. Bien souvent, il y a eu ces questions ici sur l'interaction génotype-milieu. Bon, tous les travaux montrent qu'il n'y en a pas, ou très très peu, en dehors de l'épisode de la frisole, mais ça c'est par la race locale. Et donc tout ça donne des résultats qui sont vraiment très positifs. Bon, ici, on vous le montre souvent, l'évolution génétique. Bon, ça c'est le cas de la manège tête rousse, on aurait pu en prendre d'autres. Donc le niveau génétique, il a augmenté de 140 litres entre 1985 et 2022. Voilà. Alors après, les conditions d'élevage, l'alimentation, etc., c'est aussi amélioré, ce qui fait que ça évolue encore plus. voyez, les effets troupeaux ont augmenté de 80 litres, mais en fait, la génétique a quand même vraiment tout tiré. Et voilà, quoi, ça, c'est quand on regarde sur une longue période, on voit que il y a une progression qui est constante et qui est remarquable de ces races locales. Alors, le lait, c'est caractéristique parce qu'on le voit bien, quoi, c'est des litres, c'est facile. C'est pour ça qu'on parle du lait, mais il n'y a pas que le lait qui s'est amélioré. Bon, ici, c'est l'évolution génétique de la richesse du lait. Donc là aussi, c'est. Alors, en bleu, c'est un Manechtetaurus, c'est le TB. On pourrait faire pareil sur le TP. Et vous voyez, c'est en comparaison, en évolution, à l'Alacone qui est en rouge. Donc on voit qu'aujourd'hui, le niveau génétique à Manechtetaurus, il augmente à la même vitesse que ça augmente à l'Alacone. Donc voilà, c'est même efficacité, à peu près, bon, le détail, il faudrait voir, mais que l'Alacone. Donc ça marche sur le lait, ça marche sur les taux. On ne peut pas avoir de chiffres sur les cellules et sur la mamelle, parce que un, c'est trop récent, et deux, sur la mamelle, je ne sais pas quel chiffre montrer, quoi. Alors après, ce qui est important, et là, c'est un élément important du collectif, c'est la diffusion. Alors c'est important d'abord parce qu'il faut que ça diffuse vers... Les schémas, ils ont été construits pour qu'ils créent du progrès génétique, mais qu'ils soient suffisamment importants, ces schémas de sélection, pour diffuser vers toute la race. Donc l'objectif, c'est bien ça, quoi, c'est de diffuser vers tout le monde. Mais c'est vrai que c'est les sélectionneurs qui font l'effort, et il est vraiment important dans le modèle économique que tout le monde participe. C'est-à-dire les gens qui bénéficient de la diffusion, il est important qu'ils participent aussi. Et donc la diffusion, alors si on regarde en bas, c'est les trois races ovines laitières des Pyrénées, là sur les trucs en pointillés. Donc en bleu, c'est l'évolution des sélectionneurs, c'est le lait, toujours, parce que le lait, c'est facile à montrer, hein, c'est que pour ça. Et en rouge, c'est l'évolution du CLS. Et donc on voit bien que le CLS, si on dit que c'est les non-sélectionneurs, donc la diffusion, ben, ils augmentent à la même vitesse que les sélectionneurs. Mais ils ont un retard. Ils ont un petit peu de retard, et ce retard, il est fondamental. Il serait très dangereux d'inverser, c'est-à-dire que les sélectionneurs, finalement, peu importe la raison, mais on pourrait imaginer, soit en dessous des non-sélectionneurs. Parce que les sélectionneurs font un effort, produisent un effort, ils payent un peu plus, et quelque part, il est logique qu'ils aient de l'avance. Voilà, donc du coup, la sélection collective, elle se fait à l'échelle de la filière, pour peu que la diffusion soit massive et efficace. Bon, elle existe, hein, au moins à montée naturelle, pas trop par insémination, ce serait mieux si ça diffusait plus par IA. Mais avec les bébés génomiques, il y a quand même une bonne diffusion par montée naturelle, mais c'est à continuer. Et sur les taux, ben, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que, alors là, on est aussi toute race locale. En rouge, c'est les CLS, en bleu, c'est les CLO. Alors au début, les CLS sont au-dessus du CLO pour les taux, parce qu'ils ont moins de lait, donc ils ont plus de taux. Mais la sélection fait que les sélectionneurs, petit à petit, rattrapent les CLS et vont passer au-dessus. Alors là, le hasard fait qu'en 2021, j'ai pas triché, c'est les taux réels, quoi, hein, c'est pas la génétique, là, c'est le taux du tank. Donc ils sont au même niveau que les CLS. Donc là, les années d'après, ils vont passer devant. Donc ça veut dire que ça marche, quoi. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est sur le schéma, on va dire, classique, enfin, qui a fonctionné jusqu'à présent. Après, il y a eu la révolution, entre guillemets, de la sélection génomique qui est arrivée il y a quelques années. Bon, il y a eu tout un tas de programmes de R&D qui ont été faits. Ça a commencé à Alacone. Bon, vous avez bénéficié du travail qui a été fait à Alacone. Sur d'autres aspects, les Alacones vont bénéficier du travail que vous avez fait avant, sur le parasitisme par exemple. Mais tout ça montre que plus on va aller vers une dynamique collective, même interbassin, à mon avis, mieux ce sera. Donc il y a eu beaucoup de programmes de R&D. Bon, à Alacone, ils se sont lancés en 2015, et vous, en rôle, vous êtes lancé en 2017, à l'issue du programme Génomia. Donc Génomia, c'est Manish Lachan, c'est avec les collègues de Necker et de Sud. Et donc voilà, ça a été l'occasion finalement de travailler sur la génomique et de se lancer. Et donc le résultat de tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a 4700 béliers qui sont génotypés et connus sur descendance, ce qui vous permet d'avoir des index génomiques précis. Donc les béliers génomiques là, qui sont vendus chez les naisseurs, voilà, ils sont quand même... On élimine les moins bons et voilà, il y a une certaine précision, une certaine qualité de ces béliers. Et donc, bon, on n'a pas un recul énorme sur la sélection génomique et sur son efficacité, mais déjà on se rend compte que bon, voilà, il y a un peu plus de progrès génétique. Donc, il y a toutes les années, là, tous les millésimes, on va dire, et on a le niveau génétique moyen pour chacune des années. Et donc, si on compare à un niveau basal, qui était un niveau moyen des années avant la génomique, eh bien, on obtient une efficacité génétique en termes de progrès génétique sur ISOL, pas sur le lien, c'est sur ISOL, c'est-à-dire sur le critère global, qui est entre 15 et 30% de plus d'efficacité. Bon, avec plus de recul, peut-être on montera encore, mais... Et donc, une valeur ajoutée de la génomique en termes d'efficacité. Et certainement que c'est une bonne opportunité pour bâtir la brebis de demain, puisque c'est la commande commune en fait, c'est aussi de parler de demain, quoi. Donc c'est une opportunité pour bâtir la brebis répondant aux défis économiques, environnementaux et sociaux. Alors, évidemment, ça peut paraître du blabla, mais en fait, ça l'est pas, quoi. Alors, ça l'est, quand on fait des dossiers, il faut mettre les mots-clés, mais c'est quand même une réalité, quoi. C'est... Voilà. Et donc, autre chose qui est importante, qu'on ne s'en rend pas compte évidemment, mais en fait, le schéma collectif avec des index, etc., c'est vraiment un instrument démocratique. C'est démocratique parce que les index, c'est la meilleure estimation de la valeur génétique qu'on puisse faire avec les données qu'on a, dont on dispose. C'est le mieux qu'on peut faire. Et en fait, l'index. C'est terrible parce qu'il répond. En fait, il est indépendant de la réputation de naisseur. Hein. Si vous avez un naisseur très, très connu, un classique, un grand nom, ben oui, mais les index. S'il y en a d'autres qui utilisent l'IA, qui font du contrôle de performance officielle, etc., et s'ils font bien la génétique, des gens pas connus, ils vont sortir avec de bons index eux aussi. Donc vraiment, ça remet tout le monde au même niveau. Juste une anecdote, moi j'ai pas connu, mais c'est Francis Barrier qui avait connu ça. En Sardaigne, quand ils ont mis en place les index, donc les index officiels, quoi, scientifiques, le centre à l'époque a eu un procès de la part de quelques éleveurs, des éleveurs qui étaient des gros naisseurs, des classiques. Et donc à l'époque, Francis Barrier avait été obligé d'aller donner une justification technique aux index, et oui, parce que ça remettait en cause la supériorité de ces personnes-là. Par ailleurs, dans un schéma collectif, ça c'est aussi un des acquis de la fameuse étude là, en 89 ou 87, c'est qu'aujourd'hui les thermos d'IA, c'est les mêmes pour tous les sélectionneurs. Alors, je parle au sein des sélectionneurs, hein, pour les autres, c'est au sein d'une même catégorie, tout le monde a la même valeur du thermos d'IA au niveau génétique moyen. Ce qui fait qu'il y a égalité de traitement entre tous les sélectionneurs. Donc c'est un élément de plus vers la démocratie. Alors évidemment, si vous allez comparer avec votre voisin la moyenne, vous allez trouver des différences, forcément. Parce que le bélier, c'est pas les mêmes béliers d'un jour à l'autre. Et puis il y a des gens qui sont au pic, des gens qui sont en dehors du pic. Donc voilà, il peut y avoir quelques petites différences, mais en moyenne, c'est vraiment... L'objectif en tout cas du centre, c'est que tout le monde bénéficie du même thermos. Et alors, une des conséquences. Est-ce que ce que je dis c'est du blabla ou pas? Eh bien, pas vraiment, parce que. Alors, si on regarde à droite sur le lait, on a les trois races. Prenons les basques auvergnats à gauche, par exemple. Là, je parle du niveau moyen des sélectionneurs de la race. Niveau moyen. En gros, ça veut dire qu'il y a 95% des sélectionneurs qui sont entre les deux carrés rouges en termes de production laitière observée. Le phénotype, contrôle laitier, lactation. Donc ça veut dire que les sélectionneurs, ben, il y en a qui sont à moins de 150 litres, donc d'autres qui sont à 300 litres, à moyenne de leur volume. Et les deux petits points verts, ça veut dire qu'il y a 95% des sélectionneurs dont le niveau génétique moyen de leur brebis est entre ces deux petits points verts. Alors le triangle bleu, c'est la moyenne. C'est la moyenne, hein. Voilà. Donc, autour de la moyenne, vous voyez que ça veut dire que tous les sélectionneurs ont grosso modo le même niveau génétique. Pas exactement, hein. Les deux points verts, ils ne sont pas au niveau du triangle bleu, mais quasiment. Et les grosses variations entre sélectionneurs, pour parler d'une catégorie homogène, hein, je parle, eh bien, c'est les conditions d'élevage, montagne ou pas montagne, alimentation différente, etc. Alors, ça ne veut pas dire que la génétique ne joue pas, parce que ça, c'est à l'instant T. Mais dans le temps, le triangle bleu et puis les deux petits points verts, et bien, en fait, ils augmentent, tel comme un rouleau compresseur. Dans le temps, la génétique, elle joue dans le temps. Mais à l'instant T, si le centre fait bien son travail, et là, on voit qu'il le fait bien, ça veut bien dire que tous les thermos sont identiques et que tous les gens font suffisamment de gap, etc. Et bien, et c'est pareil pour les taux. Hein. Si on prend le DP à côté, il y a 10% des variations du taux protéique entre élevages qui sont d'origine génétique. Tout le reste, c'est autre chose. Bon, ça, c'est juste une illustration de ce que je viens de dire. Toujours en race basco-bernaise, par exemple, chaque point rouge, c'est un éleveur. C'est en 2022. Et en ordonnée, c'est la production des adultes. Et donc, vous voyez que la production des adultes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça commence à 150 litres et ça va jusqu'à 320 ou je ne sais pas, 300 millilitres. Donc, il y a vraiment une grosse variabilité et ça, c'est pas de la génétique, ou très peu de la génétique. Alors, parfois, il y a des esprits de chagrin qui disent « Oui, mais la génétique, vous faites du progrès génétique, très bien, mais on perd beaucoup en variabilité génétique. » Donc, il y a des collègues, donc dans le cadre de Hardy, le premier projet Hardy, là, et Smart, je vous parlerai un peu, qui ont essayé de voir quelle était la perte de variabilité depuis, ben, vous voyez, depuis 1980, je pense, je ne vois pas bien ici. Voilà. Donc, la variabilité, c'est là, la variabilité génétique, et c'est ce qui est en rouge. Ça veut dire qu'en 35 ans, en 30 ans, les barres rouges, elles ont un peu baissé. Ça veut dire qu'il y a eu, effectivement, une perte de variabilité génétique, un petit peu. Cette perte, elle est due à deux choses. D'abord au fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Bellmer, mais peu importe, la sélection, elle réduit la variabilité entre animaux. Si on sélectionne le lait, forcément, on n'a que des animaux qui sont bons sur le lait, et donc il y a une réduction. Bon. Et ça, c'est la partie verte. C'est le vert qui est en haut. Mais en fait, c'est temporaire. Parce que dès qu'on rechange l'objectif de sélection, on réintroduit de la variabilité avec d'autres caractères. Et à ce moment-là, on rebat un petit peu les cartes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien, parce que à partir de 2005-2010, ou un peu avant, eh bien, la partie verte, elle diminue. C'est-à-dire que, en fait, on regagne de la variabilité génétique générale. Parce qu'il y a eu les taux, il y a eu la mamelle, il y a eu les cellules, il y a eu, et puis demain, il y a le parasitisme. Ce qui fait que plus on a un objectif de sélection équilibré, moins on a de crainte sur la variabilité génétique. Parce que les brebis, il faut qu'elles se dépatouillent pour sélectionner tous les caractères. Et la partie bleue, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est en fait la perte de variabilité un peu liée à la consanguinité, à des accouplements qui seraient consanguins, des familles des familles trop grosses, ça ne représente que 3%. C'est-à-dire qu'en 35 ans, on a perdu 3% lié à la consanguinité. Donc ça veut bien dire que le travail collectif au niveau du centre, il est bien fait. Pas d'accouplement consanguin, vous le savez, gestion des familles correcte, Et c'est tout ça, tout ce travail qui est... Alors évidemment, vu de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais je pense que quand Céline fait les choix, là, ben c'est une casse-tête chinois, quoi, parce que... Ça veut dire que le compromis, il est géré au niveau du centre, le compromis pour dire, bon, peut-être je mets un peu moins de progrès génétique, tel bébé je ne le prends pas, parce que je préfère prendre l'autre qui est dans une autre famille, plus originale, etc., etc. Donc après, faites passer le message sur le terrain qu'en fait la sélection, si elle est bien faite évidemment, ça ne génère pas de... En Beauvais, c'est un peu différent. En Beauvais laitier, les taureaux, vous savez, ça produit des tares, etc. Mais on n'est pas du tout en Beauvais laitier. Alors, un autre élément du collectif qui est très... Donc là, on était au sein, ici, quoi, grâce aux villes locales laitières des Pyrénées. Un autre élément du collectif, c'est aussi le national. Et, bon, je pense qu'en brebis laitière, il y a toujours eu... Il y a une forte tradition de continuum entre les organismes de terrain, la recherche du développement, l'INRA, l'Institut de l'élevage. Et donc ça c'est certainement un aspect qui a permis aussi de bien avancer quoi, sur tous les aspects de sélection. Alors, bon, il y a le comité national brebis laitière qui regroupe tous les bassins. Bon, j'insiste parce que quand le collectif est questionné, c'est vrai à local, mais c'est vrai aussi au national. C'est-à-dire, entre les bassins, il y a des questions qui se posent. C'est pas évident de gérer un collectif rayon de Roquefort, Corse, Pyrénées-Atlantiques. Au niveau R&D, on a une unité mixte technologique qui est à Toulouse, qui permet de travailler plus facilement entre INRA, Institut de l'élevage, et partenaires professionnels. Bon, je mets le SIOL, alors, aussi. Bon, le SIOL, ça fait partie des outils collectifs. Bon, ça en fait partie. Enfin, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais il n'y a pas qu'ici que ça se joue, le collectif. C'est aussi au niveau national. Brebis laitières, mais pas que. Aussi avec les ovins, avec les bovins. Et c'est une des difficultés actuelles. Donc, ça a bien marché. Les résultats, ils sont là. Hein. On ne le dit pas de manière dans le vide. Quoi. Les résultats sont là. Et probablement que le défi, ça va être de faire vivre cet esprit collectif au-delà des générations et malgré les difficultés financières des uns et des autres. Hein. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une telle efficacité génétique? On pourrait dire non, hein, parce que pendant des siècles et des siècles, il n'y a pas eu de génétique. Enfin, il y a eu une sorte de sélection à l'échelle du temps des cathédrales, mais où on a levé les cordes à la Manche Tête Rousse, comme dirait Francis. Mais... Donc on pourrait dire non, mais moi je ne dirais pas non, je dirais oui, on a besoin d'une telle efficacité génétique. On en a besoin pour maîtriser la qualité du lait. Alors aujourd'hui, c'est le TP, le TB, mais peut-être que demain, ce sera des composantes fines du lait, je ne sais pas. Bon, la viande, il faut la lever, c'est un bébé. On a besoin d'efficacité génétique pour améliorer la forme de la mamelle, pour traire plus facilement. Et donc là, c'est aussi le bien-être du trailleur quoi, qui est en jeu, et de la brebis, bien sûr. On a besoin d'efficacité génétique pour améliorer la santé des animaux, donc les cellules somatiques par rapport aux lamites, le parasitisme, de même la longévité, puis la résilience. Aujourd'hui, on aime bien parler de résilience. Bon, on fait comme tout le monde, on dit résilience, mais disons, ça recouvre un peu tout ça. Et du coup, on a besoin d'efficacité génétique pour construire la brebis de demain, donc là aussi, adaptée à la transition agroécologique efficiente et résiliente. Et pour ça, le carburant essentiel, alors, il y a la variabilité génétique, mais je vous ai dit que la variabilité génétique, c'est bon, elle existe. Mais l'autre carburant, c'est le phénotypage, c'est-à-dire le contrôle de performance. Bon, le génotypage, ça a un coût de moins en moins important. Alors, les pédigrés, aujourd'hui, ça paraît... bon, on a des bonnes relations de pédigrés, on a des pères connus, etc., s'il y a beaucoup moins d'IA dans quelques années, je ne sais pas. Ça, c'est... Mais aujourd'hui, c'est vraiment le phénotype qui est le booster. Et pour ça, la coopération et l'harmonisation collective sont des stratégies qui, à mon sens, sont très efficaces. Donc, ça a été montré tout à l'heure, hein, Angélique a bien montré tous les projets, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais il y a eu plusieurs projets structurants, et vous avez toujours été, au niveau du Centre Auvergne, partie prenante de ces projets. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises de sélection ou organismes de sélection français en brebis laitière, et encore moins en brebis viande. Bon, ça a été un choix historique. Didier, Claude, maintenant. Hein. Voilà. Et donc, c'est. Alors, un, ça vous permet d'avoir des financements complémentaires, donc c'est quand même pas complètement. C'est au moins cet intérêt-là, mais aussi ça permet d'être up-to-date, quoi, par rapport aux innovations. Donc, Smarter, c'est un projet européen qui a beaucoup travaillé sur l'efficience et la résilience en petits ruminants. Et qui a aussi travaillé sur l'indexation multi-pays. Et dans ce projet européen, il y avait un cas d'étude en brebis laitière. C'était l'indexation multi-pays entre la Manèche et la Latcha. Voilà. Bon, le projet Hardy, vous le connaissez. La principale issue de ce projet, c'est la création de l'Artalian, d'un point de vue au moins politique, on va dire, hein, qui est une association commune. France-Espagne, c'est pas encore un organisme de sélection transfrontalier, mais peut-être qu'un jour ça le deviendra. Et bon, je disais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui en ont rêvé. L'autre fois, Francis disait qu'il y avait aussi beaucoup de techniciens qui en rêvent. Donc ça se fait, ça arrive. Donc l'idée, c'est toujours pareil, quoi, hein, c'est d'arriver à travailler de plus en plus en communauté avec les Latcha. Sur la génomique et sur l'harmonisation de tout ce qui est contrôle de performance, nouveaux phénotypes. Et puis, ben, parallèle, ça a été dit, c'est sur la résistance au parasitisme avec l'approche intégrée, sur lequel vous avez une véritable avancée. Sur tous les domaines, quoi, hein, sur le parasitisme. Alors, sur Hardy, il y a un Hardy 2 qui a été déposé là, il y a quelques semaines. Donc on espère que ça va que ça va déboucher, on verra bien. Ça mettrait du beurre dans les épinards si ça débouchait. Et surtout, alors je ne sais pas si je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. L'intérêt de ce Hardy 2, ce serait toujours d'aller de plus en plus dans la collaboration avec les Espagnols et d'aller vers un index commun manège et latcha. Mais un peu de routine, ce serait l'objectif. Donc, dans les projets structurants, il y a Phénopasto. Donc là aussi, c'est vous qui êtes à l'initiative. Alors, après, c'est des plateformes de services génétiques. Donc, il y a FEDATEST dans le Massif Central qui s'est rajouté et qui est partie prenante à part entière. Mais l'idée, au départ, c'est ça vient du Centre Auvergne, tout ça. Voilà, donc des plateformes de phénotypage. Et ça montre bien que le côté phénotypage, c'est vraiment le carburant pour le futur. Donc, Phénopasto, on est toujours sur les mêmes choses, travailler sur l'efficience alimentaire et sur les émissions de gaz à effet de serre, en essayant aussi de travailler beaucoup sur les spectres du lait, parce que l'intérêt des spectres du lait, c'est que c'est facile à obtenir, c'est pas coûteux, il y a un petit coût marginal, mais c'est pas très coûteux, et ça permet d'avoir des prédictions, des proxys, pour des choses très difficiles à mesurer. Émissions de gaz, efficacité alimentaire. Donc, plus on va arriver à avoir des équations qui permettent de dire, dis-moi quel est ton spectre, je te dirai quelles vont être tes émissions, mieux ce sera. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Alors, l'aptitude à la marche avec les aplombs, valorisation de l'herbe, phénotypage sur des brebis anestives avec des GPS. Et puis, sur la résilience, il y a le parasitisme. Voilà. Bon, ça a été dit, hein, je ne vais pas trop aller. Alors si, dans la résilience, il y a le compteur Hardy, là, hein, qui est aussi un élément important, parce que, bon, c'est peut-être pas demain la veille, mais le jour où on aura suffisamment d'éleveurs équipés d'Hardy, de compteurs, en ferme, ça permettra d'avoir des données quotidiennes de contrôle de performance, de contrôle laitier. Et donc, avec ça, on va être capable de détecter des challenges climatique ou pas climatique, ou de conduite, ou de alimentaire, de santé, de parasite, qu'on ne voit pas réunis. Et le fait de connaître ça, ça va permettre au sein d'un élevage de pouvoir sélectionner les brebis qui résistent le mieux, ou en tout cas qui à un moment donné baissent de lait, mais qui sont capables de revenir. Bon, c'est un truc un peu nouveau. Au niveau méthode, ça a été travaillé, on sait faire. Après, il faut avoir des données. Ça, c'est compliqué. Et puis après, travailler les compromis entre efficience et résilience. Et en fait, vous allez être concerné par cette histoire de compromis quand on va l'an prochain introduire le parasitisme dans l'isolé. Et la question, ça va être, qu'est-ce que vous serez prêt à perdre sur le lait, par exemple, ou sur les taux, pour introduire le parasitisme dans l'isolé. Et donc, vous allez devoir gérer ce compromis, prendre la décision. Donc pour ça, il y a les plateformes, c'est des béliers de Centrovin qui seront des plateformes de phénotypage sur lesquelles on va faire des mesures. Il y aura un troupeau support tête rousse au Centrovin, et puis c'est ce qu'a dit Angélique, vous recherchez 6 à 7 fermes équipées déjà et volontaires pour faire des mesures un peu plus que d'habitude. Donc, j'ai presque fini. Hein. La résistance au parasitisme, Francis a déjà présenté tout ça. Hein. Alors, chose qui est importante, la plateforme Phénopasto, c'est une plateforme de service pour vous, bien sûr, mais aussi pour le plus d'OS possible en France. C'est-à-dire, vous avez la capacité de produire des larves et donc de vendre un service de fourniture de larves à l'OS Assolines du Massif Central, Île-de-France, Texel, etc., etc. Donc, depuis 2008, il y a eu 1700 béliers tête rousse et 500 béliers béarnais qui ont été soumis au protocole de phénotypage. Peut-être que dans 3-4 ans, on dira qu'il y a 200 béliers manèges tête noire, ça serait bien, ça on verra. Et puis, effectivement, il y a eu un peu un saut qualitatif l'an dernier avec une indexation génomique. Alors pourquoi c'est qualitatif? Parce que cette indexation génomique, elle a permis de choisir dès cette année des jeunes béliers à 3 mois sur index génomique en connaissant leur aptitude à la résistance au parasitisme. Et ce sera officialisé en quelque sorte l'an prochain, mais dès cette année, il y a eu des choses. Et puis après, il y aura l'intégration du parasitisme dans l'isole, donc ça va être en discussion dans les mois à venir. D'où le compromis dont je vous parlais tout à l'heure. Hardy, oui, ben Hardy, j'ai déjà pas mal. Donc, Artal Dehan, ça c'est l'élément politique essentiel. Et puis tous les éléments techniques, c'est le prochain Hardy, là, celui qui va arriver, j'espère. C'est arriver à une évaluation génomique manège tacha de routine sur tous les caractères. Travailler toujours plus sur les nouvelles technologies et méthodologies au service de l'élevage pour le renouvellement des générations, donc notamment les spectres MIR dont je vous ai parlé, les compteurs à lait, donc c'est Phénopasto et Hardy, c'est complémentaire, hein, tous ces trucs-là. Bon, on a mis aussi quelque chose sur le diagnostic agroécologique, puisque ça permet de se donner encore plus de chances d'avoir le projet. Mais c'est quand même important. Et puis travailler sur la standardisation, alors, du standard, standardisation du standard, et de la morphologie de la mamelle, entre les lachas et les manèges, et notamment entre les manèges tête noire et les lachas tête noire, qui sont, semble-t-il, très motivés pour travailler ensemble. Voilà, juste avant la conclusion, donc, tout cet apport du collectif, donc c'est un vrai défi, la sélection collective. L'harmonisation, la coopération au sein des bassins, mais aussi au niveau national entre bassins. Parce qu'il y a beaucoup de forces centrifuges aujourd'hui. D'abord, déjà, les pratiques sont questionnées. Vous savez que la synchronisation des chaleurs s'est questionnée. Ça interroge sur l'IA. Pas forcément, hein. L'IA pourra continuer, mais enfin, ça interroge quand même. Et puis aussi, la vision de l'élevage par la société, sans arrêt, est remise sur le tapis, donc c'est pas évident. Et puis ce qui se passe actuellement, c'est que les financements collectifs, là aussi, sont questionnés. Donc il y a une remise à plat des financements collectifs Donc ce qui était acquis pour les uns et les autres, telle race, ce qui était acquis pour telle race, on remélange et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va en sortir. Parce que quand on remélange, il y a forcément des convoitises. Et donc les gens qui, à un moment donné, n'avaient pas sur tel ou tel point, par exemple, il y avait un programme Tremblante qui permettait de financer des génotypages, si ça s'est remis en cause, ça fait une masse financière. Il y a des gens peut-être plus puissants, par exemple les vaches, qui peuvent venir essayer de gratter là-dessus. Et donc du coup, ben, vous êtes mis à l'épreuve et vous devez affronter ce challenge. Donc là, encore une fois, c'est facile pour moi de le dire, mais je suis obligé de le dire quand même. Et donc je pense que c'est vraiment important de préserver les mutualisations et les partages entre vous et entre bassins. D'aborder avec recul et vision à long terme le financement de l'investissement génétique collectif. Alors, avec recul et vision à long terme, c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est aujourd'hui, vous avez certaines difficultés, et donc vous vous dites, bon, je vais faire un peu moins d'IA, ou alors le contrôle laitier, je m'en passe. Bon, je ne veux pas blâmer, je ne veux pas jeter la pierre. Mais sur le long terme, ce n'est pas une bonne solution. Après, peut-être c'est nécessaire, si je le fais encore une fois, mais sur le long terme, ça aura des conséquences. Et puis aborder avec raison et fermeté, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les différences de vision entre les bassins sur certains sujets sensibles. Bon, j'ai essayé d'insister là-dessus, quoi. Même entre bassins, aujourd'hui, c'est compliqué, pour différentes raisons. Je vais juste en donner une, par exemple. Vous proposez un service de fourniture de larves de parasitisme. Certains OS peuvent être tentés de s'autonomiser, par exemple. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais c'est certainement le fait d'aborder collectivement, de manière unie, au sein des brebis laitières, par rapport à d'autres, les sujets, c'est certainement plus efficace. Voilà, donc en conclusion, bon, les brebis manèches chez Basco-Béarnaise des années 50-60 étaient des brebis à faible niveau laitier, comme la Laconde d'ailleurs, comme la Manchega, comme la Choura. Et bien, les acquis du collectif, c'est qu'aujourd'hui, on a des brebis qui sont à très bon potentiel laitier, qui sont présentes dans les bassins. C'était pas gagné, ça c'était ma première diapositive. Hein. La race locale, c'est pas acquis d'avance. En zone Choura, c'est loin d'être gagné. Il y a beaucoup plus d'ASAF que de Choura aujourd'hui. Avec un objectif de sélection équilibré et varié, et qui va encore être plus varié dans le futur, parasitisme et puis les caractères des domaines. Bon, résistante à la tremblante. J'ai pas fait de diapo sur la tremblante, mais enfin, on aurait pu. Hein. Alors là, les apports du collectif en 2003, ça a été fondamental. Et qui a réussi sa sélection dans des systèmes de production traditionnels. A priori, les systèmes de production n'ont pas fondamentalement changé. Et le but, alors quand Phénopasto a été fait, c'est ce que disait toujours Claude Soula, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on adapte nos, par rapport aux différents défis. Il ne faut pas qu'on adapte nos systèmes à la brebis, il faut qu'on essaye d'adapter la brebis à nos systèmes. Et donc aujourd'hui, c'est jusqu'à présent, c'est ce qui a existé, et c'est le but des programmes à venir sur la résilience. Voilà. Et donc les défis du collectif, ben, c'est ça, c'est de continuer à travailler sur ces nouveaux caractères d'efficience, de résilience, en phase avec la transition agroécologique. Donc c'est pour vous, essentiellement, je pense c'est essentiellement pour vous, mais plus vous allez prouver à la société que vos animaux, ils émettent pas trop de gaz et autres, bon, ça peut être un avantage, je crois. Ah, j'ai peut-être passé le temps, je ne sais pas me rendre compte. Bon, merci de votre attention, du coup. Thank you.